Accès libre.
Ceux qui nous écoutent en direct, le dernier jour du mois d'octobre, il y a de la fébrilité dans l'air et des feuilles au sol. J'espère que vous allez bien, que c'est libre avec Kamal Salifou, qui est là à la régie, qui va nous contacter certaines personnes au téléphone. Il va y avoir également pas mal de monde en studio. On termine la co-animation d'octobre avec Nathalie Labelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
De l'Association québécoise des personnes de petite taille. Madame Villeneuve avait autre chose à faire.
Eh oui.
Alors, je passe en deuxième. Mais c'est correct. C'est correct.
Ben,
on s'entend
délégué.
Très bien. Oui, puis, somme toute, là, on a quand même un très bon plan B.
Mm-hmm.
Oui, je pense que
oui.
faut le voir comme ça.
Vous parliez de moi.
Ben
ah, okay.
Oui.
Je pensais
oui.
À notre deuxième
non,
partie
non,
d'émission.
Non, 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 non. Vous allez passer l'heure au complet.
Oui.
Vous êtes mon invité de la semaine, comme Pénélope, là, qui a son monde tout l'été.
Oui, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. On va avoir une discussion sur la réalité entourant la personne de petite taille pour la deuxième partie de l'émission. Des gens que vous connaissez, j'imagine?
Oui, oui, oui.
Parfait. Alors, vous nous les présenterez en bonne et due forme lorsque le temps viendra. On voulait également parler d'entrepreneurship. Bon, on a... J'ai fait un saut comme vous à la maison. J'ai presque vu clair pendant... pendant une demi-seconde, oui, joyeux Halloween, c'est tout à fait indiqué. J'allais où avec ça? Oui, on espérait parler à François Blais, qui avait dit oui il y a 3 semaines, puis qui nous a dit non il y a 2 jours. Puis on essaie d'avoir une date, puis on n'a plus de nouvelles du ministre du Travail. C'est ça. Il nous a réécrit en disant il n'est pas disponible. Et là, j'ai réécrit à l'attaché en disant il n'est pas disponible vendredi à 12h15, mais il est peut-être disponible un autre tantôt, pas de nouvelles. Alors, j'espère qu'il est encore ministre ou qu'on a encore un ministre du Travail. Mais on va quand même, nous, nous intéresser au travail, à l'entrepreneuriat. C'est On roule au Québec qui nous a proposé la personne d'Éric Tanguay. En fait, on regarde partout lorsqu'on fait de la recherche pour cette émission-ci. Et Lynn, qui m'assiste de ce côté-là, me disait, il a l'air intéressant, ce gars-là. Éric, pour vous avoir rencontré dans le corridor, elle a raison. Vous avez l'air intéressant.
C'est gentil,
monsieur. Et vous êtes ce gars-là. Parlez-moi un peu de vous, parce que, bon, ce que les quelques notes biographiques que j'ai, c'est que vous êtes devenu paraplégique à 18 ans. Les affaires, ça vous intéressait dès le départ? Vous étiez quelqu'un qui vouliez être votre propre patron ou c'était pas aussi clair que ça au départ?
Non, c'était pas si clair que ça. Très jeune, à l'âge de 12 ans, bien avant d'être en fauteuil roulant et à mobilité réduite, j'avais de l'intérêt sur l'entrepreneuriat, mais c'était très jeune, finalement, de passer, tondre le gazon, vendre des popsicles en autour des piscines et toutes ces activités-là ou toutes ces possibilités d'aller chercher des petits sous, finalement, supplémentaires et très jeune. Fait que ça m'a toujours... j'ai toujours été inspiré.
Mais de là à investir ses deniers, de là à être responsable d'employés... C'est autre chose, là.
Oui, oui, c'est sûr. La vie, bon, c'est sûr qu'on a eu un accident de voiture à l'âge de 18 ans. Ça change un peu notre façon de voir les choses, mais on n'est pas entrepreneur. Hein. Finalement, on devient un entrepreneur. Souvent, c'est ça qui arrive dans la vie. Puis, dans l'âge de la vingtaine, j'ai senti que j'avais le besoin de m'accomplir de différentes façons. Je l'ai fait beaucoup au niveau du sport. J'ai joué du tennis actif. En fauteuil roulant, gagner quelques championnats, bien, plus ça. Mais de devenir finalement mon propre patron, c'était pas vraiment non plus ça. C'était surtout de j'avais des visions. Je voulais être entrepreneur, puis je voulais partager peut-être des choses dans différents domaines. Et le domaine de la santé m'intéressait depuis toujours. J'ai toujours travaillé dans ce domaine-là depuis très jeune. Et finalement, c'est pas le fauteuil roulant ou l'handicap qui je suis devenu. Finalement, entrepreneur du USA, mais c'est sûr qu'en étant à mobilité réduite, on est des gens qui... on a un certain leadership, hein? On est des gens qui sont des fonceurs.
Ça dépend.
Oui.
Je suis pas sûr... Je suis pas prêt à dire c'est sûr.
D'accord.
Ouais. Mais j'ai envie de vous poser la question parce que, disons... Bon, pour ceux qui l'ignorent, je suis aveugle. Et parfois... La société, via les médias, me pose des questions ou veulent s'intéresser à une partie de ma vie. Puis je trouve qu'il n'y a pas de sujet là, il n'y a pas d'entrevue là. Et j'ai envie de vous poser la question en brûle pour point. Y a-t-il un sujet là, se partir en affaires lorsqu'on est paraplégique? Puis c'est correct de dire non, ça va juste modifier ma prochaine demi-heure.
Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve que mon handicap, être en mobilité réduite et être en affaires, c'est deux choses complètement. Je pense que n'importe qui peut devenir en affaires, que tu sois en fauteuil ou que tu ne sois pas. Je veux dire, les deux, en tout cas, je ne vois pas le lien, là, finalement. Mais je vois de l'avantage d'être les gens qui te voient au niveau l'entrepreneuriat, parce que finalement, il y a plusieurs entrepreneurs au Québec et au Canada. On se voit, on se fréquente, on se voit dans différentes associations, dans différents événements. C'est sûr qu'en étant en fauteuil roulant, tu viens de... Déjà, d'être entrepreneur, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ouais. Et d'être à mobilité réduite, bien là, finalement, on vient de finalement aussi de changer souvent l'image qu'on a d'un entrepreneur et peut-être pas être en perte d'autonomie hein, ou être en fauteuil roulant. On le voit souvent... veston, cravate et certains hommes physiquement très grands et tout ça. Et je pense que dû que je suis en fauteuil roulant, dû que j'ai été mobilité réduite, être assis, ça change, je provoque une certaine dynamique. Là. Il y a quelque chose qui se passe là, finalement avec d'autres entrepreneurs et les gens ont beaucoup de respect finalement aussi parce que finalement on accomplit plein de choses et juste dans les déplacements, je vous en parlais tantôt à travers... les différents endroits, différents pays que je fais, c'est sûr qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont entrepreneurs puis que finalement ne le font pas hein, pour les difficultés, problèmes d'avion, perte de sommeil, différentes choses comme ça. Fait que déjà, on se donne une difficulté supplémentaire. Hein.
J'ai causé à une technicienne en garderie il y a 2 ou 3 semaines qui, selon elle, n'avait pas été engagée parce qu'atteinte de paralysie cérébrale, elle a décidé d'ouvrir sa garderie en milieu familial et elle n'a pas de clients. Est-ce que le fait qu'on est paraplégique, c'est vrai que, je ne veux pas diminuer là, mais on a quand même, je ne sais pas de votre côté, dépendamment de la hauteur de la blessure, mais quand même on a accès, tu sais, on a toute sa tête, on a ses mains, on a autant l'ordinateur que c'est peut-être pas aussi facile de conduire, de construire un condo, là, mais somme toute, il y a peut-être des réalités qui sont plus difficiles. Avez-vous, vous, dans votre vie, été obligé de convaincre du monde, que ce soit une banque, que ce soit un partenaire, que vous étiez aussi bon que n'importe qui?
J'ai pas eu besoin, je l'ai pas jamais senti. C'est étonnant, hein? Peut-être que finalement, peut-être que dû que je me vois pas peut-être à mobilité réduite, hein, déjà
vous
là.
Vous voyez mieux.
C'est déjà là, ouais. On se voit pas. Et c'est la seule différence que nous avons avec un banquier ou quelqu'un, un autre entrepreneur ou finalement un responsable des achats c'est dans le domaine de la santé que je suis avec les acheteurs ou différentes personnes. C'est juste qu'ils sont debout puis on est assis. Mais immédiatement quand ils sont assis, on est à la même, hein, on est à même niveau.
Ouais, ouais.
Fait, à partir de là. Je veux dire, personne ne se voit. On a une table entre nous deux, puis on jase, puis finalement, on parle d'affaires et on parle d'intérêts communs et on grandit. Fait que le banquier, pour lui, il veut faire des affaires, il veut faire des sous, hein, puis finalement, il veut faire des prêts, puis il a des sous pour faire ça. Puis nous, on est des entrepreneurs. Moi, je suis...
Mais au départ, quand vous étiez dans la rampe d'accès, là?
Au commencement du tout. Écoutez, non plus, parce que j'ai été chanceux, peut-être, finalement. Ma décision qui a été prise quand j'ai eu l'accident de voiture en 86, j'ai pris la décision de remettre le compteur à zéro. Hein. Finalement, c'est pas la voiture a fait que ça m'a obligé de remettre le compteur à zéro. Hein. Elle était finie, finalement, mais j'ai reparti ma vie de cette façon-là. Et je me vois comme une personne plus à 28 ans qu'à 46. Je sais pas si vous comprenez un peu l'image que je vais vous donner. C'est d'une personne qui recommence. J'ai eu la chance de repartir.
Vie, on repart à zéro, mais avec une maturité de 18 ans au lieu de partir à zéro.
Absolument. Et c'est quelle valeur ajoutée qu'on peut avoir, hein, finalement. Puis il n'y a pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là, finalement, d'avoir cette opportunité-là. Fait que moi, je l'ai vu de cette façon-là de repartir.
Éric, ça fait conférencier, ça.
Ouais.
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 Ça fait... dans vraie vie, là, c'est vraiment comme ça?
Écoutez, ma fille qui est de l'autre côté, elle pourrait vous dire que oui. Les gens qui sont proches de moi, qui me connaissent depuis très, très, très longtemps, depuis... J'ai des amis d'une 35-40 ans, finalement. Des gens très proches, ma conjointe, tout ça, amis. Je vous dirais que personne ne me passe le commentaire. Mes employés, ils le voient très bien. Mm-hmm. Écoutez, non, j'ai pas besoin de justifier mon handicap. Et même... souvent, on me passe le commentaire, j'ouvre la porte avant qu'on me rouvre la porte. Fait que là, finalement, on vient de changer un peu le... Hein, ça vient de changer. Ah, oui, absolument. Ouais. Vous avez raison.
Comment passe-t-on des rampes d'accès aux infections nosocomiales? Parce que ce que je lis, c'est que vous avez commencé en rampe d'accès, et oui. Vous êtes rendu dans le nosocomial.
Politique nosocomiale, bien écoutez, c'est... Hein, par opportuniste? Non, pas du tout. On connaissait la problématique déjà dans les années 90, la problématique du contaminant dans le domaine que j'étais. Dans les années 2000, avec la problématique du C'est difficile qu'on a vu, je voyais que j'avais la possibilité. J'ai développé des produits, j'ai 3 brevets déposés dans plus de 38 pays. Quand même, il y a beaucoup de temps et d'énergie mis en arrière de ça, développé plus de 65 produits.
Mais au départ, vous étiez dans la rampe d'accès?
Bien, quand je dis dans la rampe d'accès, c'était un premier projet que j'ai pondu finalement dans les années 90 à 23 ans. Vous connaissez peut-être André Vigé de mémoire, André Vigé qui est décédé depuis un certain temps. Absolument. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai travaillé avec lui à ce niveau-là, puis finalement, ça m'a mis dans le domaine de la santé. Après ça, j'ai représenté beaucoup de domaines des entreprises américaines, dans le domaine de la posture, beaucoup au niveau des problèmes de plaies, plaies de lit, des choses comme ça dans ce domaine-là. Fait que j'ai devenu avoir une certaine expertise dans le domaine du fauteuil roulant. Même si j'étais en fauteuil roulant, c'était pas le but finalement, mais on dirait que la vie nous amène vers des choses qui sont plus faciles. Fait que je suis devenu un domaine plus de la professionnelle au niveau de la comme représentant. Et j'ai travaillé beaucoup avec les ergothérapeutes, des physiatres, médecins. Et j'ai eu l'opportunité, dans les années 2000, 2005, 2006, à faire un choix de repartir en entreprise. Parce qu'à l'âge de 21, 22 ans, j'avais une petite entreprise. Mais finalement, la vie familiale a fait que j'ai décidé de continuer et de travailler pour d'autres. Mais à l'âge de finalement, dans la trentaine, fin trentaine, j'ai sauté finalement là-dedans et avec les opportunités. Et je suis ravi en ce moment.
Êtes-vous plus homme d'affaires ou intrigué par la santé et la compagnie sert justement à vivre cet intérêt-là?
C'est une bonne question. Les gens, j'aime beaucoup les gens. Je suis une personne qui... je trouve que... Bon, c'est très triste ce qu'on vit dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement, et finalement, dû à la problématique nosocomiale qui existe, on met toujours la faute sur les autres, on met toujours la faute sur la désinfection, manque d'employés. C'est toujours la faute sur quelque chose, mais quand on parle du liquide biologique, qui est le plus grand contaminant à l'intérieur des institutions de santé, c'est un peu un sujet, finalement, qui est un peu tabou. On en parle peu ou pas du tout. Et c'est un peu ça. Et de voir un peu... que l'entrepreneur que je suis, j'ai vu des possibilités que je trouvais qu'il y avait manqué d'amélioration à l'intérieur des institutions de santé. Et j'ai eu l'opportunité de finalement développer des produits, de lancer ces idées-là. Je suis arrivé au bon moment, bon timing qu'on appelle. Et c'est ça qui est arrivé finalement un peu dans ma vie. Là. L'handicap et l'entrepreneur, comme je vous dis, moi, je le vois pas, je suis Éric Tanguay, je suis un, finalement, je suis pas deux. J'essaie de me différencier, mais je ne suis pas capable de sortir de mon fauteuil. Tous les matins que je me lève, je m'assois dans mon fauteuil.
C'est ça.
Hein? Bon, écoutez, je peux pas m'en sortir, fait que...
Est-ce que le fait que vous soyez en fauteuil roulant a forcé certaines personnes à rendre certaines choses à part à la maison ou chez EG? Accessible. Des clients, des partenaires, avez-vous, malgré vous, changé quelque chose de le fun?
Changer des choses de fun. Je pense que de démontrer à des gens avec qui je suis, que je travaille, que je vois que finalement qu'il y a une possibilité de pouvoir, même si on n'a pas d'handicap, il y a des gens qui sont avec nous, qui travaillent, et qui trouvent que finalement, on fait des belles choses, puis on fait grandir les gens autour de nous. Là. Et ça, je pense que je vois que je peux apporter beaucoup à ce niveau-là. Bien, c'est sûr, être très motivé, la motivation.
Mais y a-tu, je ne sais pas, une compagnie, un resto, parce que vous êtes client souvent, qui a rendu sa toilette accessible maintenant parce qu'Éric vient manger, puis c'est un bon client?
Non,
ou...
je ne l'ai pas vu, je n'ai pas remarqué. Il n'y a personne qui est venu me passer ce commentaire-là. Je m'adapte beaucoup à la vie. Je suis quand même un paraplégique qui a un niveau assez élevé au niveau de ma paraplégie, finalement, au niveau... la mobilité. Et j'ai pas vu, finalement, personne s'adapter à mes besoins, parce que moi, je me suis adapté. J'ai été obligé de m'adapter à la société, ou sinon, j'aurais jamais pu arriver comme entrepreneur et être toujours à me dire, ben, écoute, si tu fais pas ce tel changement-là, je peux pas. Mais il faut dire que du départ, j'ai bien choisi ma profession. J'ai été dans le domaine de la santé. Et le domaine de la santé, c'est quoi? C'est tout est accessible. plus de plutôt sont excessifs. J'ai trouvé, bon, je n'ai pas été commencé à être dans le domaine de l'automobile puis commencé à faire des essais de voitures. J'aurais été pris pas mal à être pris dans tout ça. Fait que dans la vision que j'avais, dans comment, comme en personne, au niveau du travail, du départ, hein, finalement, ben, j'ai trouvé des bonnes portes. Mais je vous dirais qu'en général, les gens, on fait grandir les gens. Hein, vous savez, hein, si on est, moi je dis souvent, on est dans le trafic, hein, faut être là, et ça motive les autres alentour de vous. On est des exemples, hein? Les gens nous prennent comme exemple, puis c'est pas le but, c'est pas
mon choix. Non, mais c'est comme ça.
C'est comme ça.
Et j'en parlais, ça vaut le détour, avec Catherine Blanchette-Dallaire, c'est une des questions que je me pose toujours. Est-ce qu'on continue d'aller encourager les, disons, les restaurateurs ou les hôteliers qui sont accessibles pour souligner leur effort, ou au contraire, on va de l'autre côté pour motiver la personne en disant « ce serait tellement plus facile et je pourrais même amener mes amis ». Isabelle Gavard de Sphère Québec, bonjour.
Oui, bonjour, M. Fortin.
Ah, Luc, c'est parfait, Isabelle. Comment allez-vous?
Bonjour, Luc. Ça va très bien, merci, et vous?
Ça va très, très bien, merci. Je voulais vous inclure dans la discussion parce que si on a découvert un peu Eric et bon, son parcours et maintenant l'existence d'IG, je voulais regarder, bon, pour Eric, ça semble un parcours, somme toute, assez heureux. Je voulais regarder avec vous si l'entrepreneurship, lorsqu'on vit avec des limitations fonctionnelles, ça va bien ou ça occasionne des obstacles particuliers?
Il y a des obstacles particuliers, c'est sûr, mais ça va bien aussi. Je dirais que pour qu'un projet d'entreprise pour une personne handicapée démarre bien, c'est important que ce soit un projet de vie.
Est-ce que c'est différent d'un autre entrepreneur ou une autre entrepreneur qui n'aurait pas de limitation? Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui s'investissent, ils mettent leur vie là-dedans.
Différent, je dirais que non, parce qu'un démarrage d'entreprise, ça reste un démarrage d'entreprise avec quels sont les clients que je vais contacter, quels sont les clients qui vont être intéressés à acheter mon produit ou mon service, quelle niche de marché je vais aller chercher. Donc, à ce niveau-là, c'est tout à fait la même affaire. Par contre, par rapport à ma gestion de mon énergie, par rapport à mon projet de vie, par rapport à ce que je suis capable de faire et comment je veux le faire, oui, là, parfois, il peut y avoir certaines difficultés.
Je pose la question aux deux, et Nathalie, vous me coupez, puis pour avoir causé avec vous la semaine passée, je sais que vous êtes capable. est-ce que, bon, je regarde, j'écoute Eric, bon, sa vie a changé à 18 ans. Ce qui fait qu'il a été élevé d'une façon, il était sportif, il avait peut-être déjà cette confiance en lui, qu'une personne qui naît avec une limitation, donc peut-être un peu retenue par le parent, n'aurait pas et devra développer. Est-ce que vous constatez, Isabelle, une différence selon le type de limitation? Comprenez-vous ma question?
Oui, écoutez, par rapport à l'origine ou selon le type de limitation?
Le type de limitation, l'origine et le type de réussite de cette personne-là dans sa tentative de se démarrer en affaires.
Oui. Alors, écoutez, je peux vous dire qu'au niveau de l'origine, que la personne soit née avec une limitation ou qu'elle la vit, soit par le biais d'un accident, soit par le biais d'une maladie, tout à coup fait qu'elle a une limitation. Ça change la donne pour moi, effectivement, de ce que je vois dans mes dossiers, parce que une personne qui naît avec une limitation va avoir un cheminement à faire au niveau de son projet de vie, mais pas plus ni moins finalement qu'un jeune qui veut se lancer dans la vie. Mais c'est sûr qu'il y a quand même certaines choses en fonction des limitations qui vont être à appréhender, il y a certaines adaptations qui vont être à appréhender. Quelqu'un qui qui a une vie professionnelle puis qui du jour au lendemain se retrouve à faire face à une réorientation professionnelle parce qu'il y a eu un accident ou qui a une maladie et puis que la réadaptation suite à la maladie ait pris 3, 4, 5 ans. C'est arrivé pour certains de mes participants qui se remet soit en affaires dans son activité professionnelle, soit qui va aller faire d'autres démarches de réorientation professionnelle et faire un autre type de démarrage d'entreprise. À ce moment-là, c'est sûr que les obstacles ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a des acquis parce que quelqu'un qui a déjà fait une carrière, qui connaît ses compétences et qui a déjà intégré pour une fois le milieu des affaires, c'est en partie ce qu'il va avoir à affronter. Et après ça, c'est plus sa gestion de l'énergie, tout ce qui est relié à son propre handicap qu'il va avoir à négocier.
Éric Tanguay a l'air tellement sûr de lui, Isabelle, qu'il a dit tantôt, je ne sais pas si vous l'avez entendu, bon, toutes les personnes en fauteuil roulant ont du leadership. Est-ce que moi, j'étais surpris et pas nécessairement d'accord avec lui? Ce n'est pas le fauteuil qui donne le leadership? Vous, dans votre constat?
Moi, ça me surprend aussi. C'est pas le fauteuil qui donne le leadership. C'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées qui étaient en fauteuil roulant, je les ai trouvées souvent très énergiques,
déterminées
et présentes. Ouais. Mais c'est pas. Je dirais que je pense même pas que ce soit relié à la notion de vivre dans une situation de handicap. C'est sûr que vivre avec une situation de handicap, ça prend du courage pour affronter certaines choses quand la société n'est pas adaptée à ses propres besoins. Mais il y a des personnes qui vont avoir l'énergie, qui vont vouloir se battre.
Ouais.
Et c'est de la personnalité.
Je veux donner l'occasion de se reprendre. Là.
Quand je dis tout le monde, c'est sûr qu'on a un environnement avec les gens qu'on côtoie, les gens à mobilité réduite, que je vois, des gens qui sont dans le domaine des affaires, qui sont des très bons emplois, finalement, puis qui sont à mobilité réduite. Peut-être mais je pense que je sens, dans différents handicaps, des gens qui ont un certain leadership. Quand même, de vivre déjà avec l'handicap, c'est déjà pas si évident que ça. Fait que je vais essayer d'ajuster un petit peu. Bon, c'est sûr qu'on a une belle réussite. On me prend en exemple en ce moment. Mais une personne qui réussit dans son quotidien d'aller faire du gym, de n'importe quel, puis qui a son handicap, c'est déjà une belle performance. C'est déjà quelque chose de très grand. Fait que, bon, c'est un peu comme ça, je le vois, là. Hein? Ouais. C'est un peu de cette façon-là, mais...
Isabelle, qu'est-ce qui existe comme programme et qu'est-ce qui devrait exister qui n'existe pas?
Mais écoutez, qu'est-ce qui existe comme programme actuellement à grandeur du Québec? Il y a la mesure aide aux travailleurs indépendants que nous gérons à Sphère Québec, qui est présente sur le marché depuis plusieurs années. À ma connaissance, spécifiquement pour l'entrepreneurship des personnes handicapées, il n'y a pas d'autres ressources. Je sais qu'il y avait eu un programme de 3 ans à Action des femmes handicapées Montréal, mais il est fini. Je ne pense pas que ce projet-là a été renouvelé. Au niveau de soutien aux personnes handicapées, bien sûr, il y a le réseau des services spécialisés de main-d'œuvre qui est là et avec qui on travaille en partenariat, qui nous soutient dans nos dossiers de travail autonome. Il y a les ressources, bien sûr, qui sont pour le démarrage d'entreprise. Là, on parle de tout ce qu'un entrepreneur peut avoir accès, comme CHLD, SADC, CEDEC, etc. Mais spécifiquement pour la personne handicapée et le travail autonome, c'est Sphère Québec.
Devrait-il y en avoir davantage ou, somme toute, une fois qu'on a trouvé la façon de vivre notre quotidien, c'est la même route pour réussir en affaires, que l'on soit en fauteuil, avec une canne blanche ou avec nos 5 sens?
Moi, je pense que, et on travaille beaucoup là-dessus au niveau du développement de nos partenariats, je pense qu'il devrait y en avoir davantage, effectivement, parce qu'on en a énormément dans notre cours et on est prêt à en prendre encore plus. Sauf que ce qu'on remarque ces dernières années, c'est qu'il y a une demande exponentielle au niveau du travail autonome des personnes handicapées. Alors, c'est sûr que par rapport aux entrepreneurs, ils sont peu présents sur ce marché-là. Mais ce que je peux vous donner au niveau de nos chiffres, c'est que les 5 années financières précédentes, on a financé à peu près 59 dossiers, 60 dossiers à peu près environ. Et on en est rendu cette année à avoir 40 dossiers en financement et presque autant de demandes qui nous attendent.
Ça, c'est quoi? Ce sont des PPE en général? Des petites entreprises, des gens qui... quel genre de dossier? Donnez-moi des exemples.
Écoutez, vraiment, on a de tout. C'est extrêmement Les personnes handicapées que j'ai rencontrées sont extrêmement créatives, font appel souvent à de la technologie, pas toujours, mais souvent. Et on peut avoir des choses aussi innovatrices qu'un développement d'un produit, d'une culture, où on va avoir de la recherche et du développement et des financements avec des chiffres avec 6 zéros derrière. Hein.
Okay.
Et puis, on se retrouve aussi avec des toutes petites niches de marché où la personne va vouloir avoir un revenu complémentaire par rapport à sa rente d'invalidité et va, par exemple, aller sculpter des bâtons de randonnée qu'elle va vendre sur des marchés. Ah. Ou alors, on peut avoir des thérapeutes qui vont ouvrir leur pratique privée, leur cabinet privé.
Mmh. Eric,
et on peut avoir
ça?
Des restaurants tout à fait d'autres choses.
Avez-vous senti, Eric, rapidement, le Québec derrière vous, que ce soit le, comme entrepreneur handicapé ou pas handicapé, est-ce que les programmes étaient suffisants pour vous donner le coup de pouce de départ nécessaire?
Non, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés au niveau des entreprises. Là, finalement, on le sent depuis quelques années. L'argent n'est plus disponible, n'est pas là. C'est très, très difficile. Je pense qu'il y a des gros changements qui sont en train de se faire en ce moment. Puis, c'est très triste, mais j'encourage quand même les gens qui sont à mobilité réduite d'essayer de voir, de faire des petites actions, finalement. C'est sûr que la plus grosse problématique comme entrepreneur à mobilité réduite, ou en tout cas avec un handicap, c'est le déplacement. Mmh. Écoutez, c'est de se rendre au point A et à un point B, puis bon, finalement, tout ça. Mais si on est capable de pouvoir créer des emplois à domicile, finalement, côté technologie, bon, à différents niveaux, informatique et tout ça, il y a plein de bonnes choses qui peuvent se faire au niveau de l'écrit aussi. Fait que je pense qu'il faut encourager ça. Il faut vraiment essayer de trouver une façon pour... parce que la difficulté des gens qui sont à mobilité réduite, ils veulent avoir des emplois. Les gens veulent aller sur le terrain. Mais c'est, bon, d'essayer de faire adapter. Quand l'entreprise n'a pas les moyens de le rendre accessible, cette bâtisse-là, il veut bien l'engager, mais il peut très bien le prendre quelques heures, 10, 20, 30 heures à domicile. Et, écoutez, on en voit plein, on engage. Moi, j'engage des gens à domicile, là, finalement, pour permettre de pouvoir faire du... on appelle des sous-traitants. Mm-hmm. Bon, qu'ils soient à mobilité réduite, qu'ils soient debout, pour moi, c'est la même chose, hein, finalement. C'est le travail, là.
Ouais. Isabelle, est-ce que vous partagez les mêmes préoccupations? Bon, un peu comme tout le monde, là, les tiroirs sont de plus en plus, sont de moins en moins garnis, puis que ce soit Sphère Québec ou l'entrepreneuriat, ça va être difficile pour un paquet de monde.
Écoutez, je ne peux pas vous dire que nos tiroirs à nous sont de moins en moins garnis. Je pense que cette année financière, on n'a jamais eu autant d'argent. Wow. On n'est jamais aussi parti aussi vite parce que justement, on a énormément de demandes, justement parce qu'il n'y a pas nécessairement plus d'argent ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les demandes sont là. On espère qu'effectivement, dans l'avenir, on aura encore plus de fonds. Puis on travaille fort pour ça. Notre direction travaille fort pour ça, justement, pour répondre aux besoins. De ce que les personnes handicapées vivent.
Je suis obligé de vous arrêter, mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Isabelle Gavard de Sphère Québec. Éric Tanguay, on se revoit.
C'est gentil.
Ça a été fort agréable. Je vous mets dehors parce qu'il faut que je vide le studio pour le remplir. Discussion sur la réalité des personnes de petite taille. Dans deux minutes, c'est Kamal Salifou qui est à la mise en onde. Mon nom est Luc Fortin. Nathalie qui se joint à nous.
Vous écoutez Accès libre.
Ben oui, Accès libre avec Nathalie Labelle, Luc Fortin, Kamal Salifou à la mise en onde. On va bientôt joindre au téléphone... On l'a déjà. Jean-François, j'ai pas de nom de famille sur ma petite feuille.
Boulet. Jean-François Boulet.
Excellent. Bonjour, Jean-François Boulet.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même.
Oui, vous m'appellerez Luc, Jean-François. Bonjour, Ginette Lapointe.
Bonjour.
Ginette, qui est également avec nous. Diane Leduc va se joindre à nous. Nathalie, présentez-nous ces gens-là. Dites-nous pourquoi on voulait les avoir autour de la table pour parler de la réalité des personnes de petite taille.
En premier, Jean-François Boulet, c'est notre président à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Comment vous voulez que je le présente?
Qui est-il et pourquoi est-il président? Parce qu'il a payé le monde pour voter pour lui?
C'est ça. Okay. Ben, lui, ça fait très, très longtemps qu'il est membre à l'association. C'est une personne il a de petite taille. Il a la maladie osseuse de la chondroplasie. C'est... Ben, Jean-François, présente-toi.
OK, on fait ça
toi.
Comme ça.
Ça serait un petit peu mieux. Alors, bon, ben, comme Nathalie vous l'a...
Engagez pas Nathalie comme agente, en tout cas.
Non.
En tout cas, je parlais en même temps. Mais non, mes motivations comme étant président, c'est que j'ai été membre longtemps, j'ai participé à un comité avant de me lancer au poste de la présidence. Je considère très important les enjeux. Depuis quelques années, les enjeux auxquels nous adhérons et que nous voulons défendre sont très importants. Et puis, je me sens plus concerné maintenant que je ne travaille plus. Alors, quand on pense que le nanisme est un handicap à prendre au sérieux, si je ne travaille plus, moi j'étais biochimiste avant, j'ai étudié en biochimie, et une opération à la colonne vertébrale, parce que l'achondroplasie est souvent accompagnée de compressions dans la colonne qui se resserre la moelle épinière. Alors, je suis devenu, suite à deux opérations qu'on devait, pour me soulager, je suis devenu tétraplégique.
Et depuis 2006...
Je suis en fauteuil électrique depuis maintenant 7 ans.
Ouais.
Alors, parce que je ne travaille plus et que je veux défendre le fait que le nanisme est un handicap à prendre au sérieux, qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Merci beaucoup.
Et en même temps, vous arrivez avec un point de vue intéressant, quelqu'un qui était, si on veut, debout et maintenant qui est en fauteuil roulant, donc le regard a dû changer. On y reviendra. Ginette Lapointe, je ferai pas la même erreur, présentez-vous.
Bon, moi, j'ai joint l'association dans les années 96.
Vous avez 10 ans de plus que le président. On ne dira pas quel âge, mais...
Et en fait, je l'ai joint parce que j'ai une fille qui a maintenant 24 ans. Et ma fille a le même gène. Moi, en fait, c'est l'hypophosphatémie. Et l'hypophosphatémie, aujourd'hui, on peut tout simplement le guérir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir le gène, mais on peut enlever les conséquences. Donc, ça veut dire que ma fille mesure 5 pieds 4, même si elle a le même gène que moi. Et ce qui est intéressant.
Est-ce que le rachitisme rénal...
Oui, c'est ça. On dit rachitisme rénal, mais c'est vraiment hypophosphatémie. Ils ne savent pas lier à quel chromosome, mais okay. En fait, c'est ça. Et je voulais aider ma fille, vu qu'elle était de grandeur normale, standard, qu'on dit. Et moi, qui avais quand même un nanisme, et c'est ça. Alors, j'ai joint l'association pour aider ma fille à voir toutes les différences.
Jean-François, avez-vous des enfants?
Non.
Non. Nathalie, présentez-vous donc.
Moi, ben, je travaille à l'association comme conseillère.
Ça, on l'a appris la semaine dernière.
Oui, comme conseillère en intégration sociale. Moi, c'est depuis 87 que je suis membre à l'association. J'ai déjà été présidente, j'ai déjà été sur le conseil d'administration. Ça fait longtemps que je gravite autour et j'ai à cœur la défense des droits.
Avez-vous des enfants?
Non, je suis célibataire.
Okay.
Fille unique, ça peut être important parce que tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit avec Karine dans les émissions antérieures, mais tout le monde peut avoir un enfant de petite taille. Donc moi, dans ma famille, je suis la seule de petite taille. Mes parents sont de taille régulière. Donc j'aurais pu avoir des frères et sœurs qui sont de taille régulière. Et de connaître l'association, de faire partie de l'association a aidé beaucoup dans l'acceptation de ma différence. Et,
c'est intéressant que vous disiez tout le monde.
Oui.
C'est donc que c'est pas, il peut y avoir, la loterie peut faire que même si on n'a pas le gène, un concours de circonstances?
Ça dépend de la maladie qui cause le nanisme, parce qu'il y a plus d'une centaine de maladies osseuses ou hormonales ou chromosomes qui peuvent causer la petite taille. Et donc, si on prend ma maladie osseuse, qui est la même que Jean-François, qui est la chondroplasie, qui est la maladie la plus fréquente, si on peut dire, qui cause le nanisme, c'est une mutation génétique. Donc, nos parents ne sont pas porteurs d'un gène. Comme Ginette tantôt disait que c'était elle, d'une façon génétique, transmise génétiquement, tandis que nous, c'est pas la même façon. Donc, cette mutation-là, on ne sait pas comment elle est causée, pourquoi elle est causée, mais on sait qu'elle affecte le gène, quel gène elle affecte, mais on ne peut pas encore...
C'est dans une proportion de 1 sur 10 000 naissances.
OK. Ouais. Okay.
Moi, j'aimerais ajouter que moi aussi, c'est ça. Moi, j'ai des frères et des sœurs qui sont normales. Mon frère, 6 pieds, toi, en fait, la plus petite, elle a 5 pieds 2. Et c'est ça, c'est juste que j'ai une mutation génétique. Moi aussi, c'est la même chose. Et une fois qu'on a la mutation, on peut la transmettre dans les chances de 50 %.
Okay. C'est ça.
J'ai envie de vous poser la question... Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous achale? Que ce soit dans votre quotidien, que ce soit le regard des gens, là, comme dirait l'anglo, everything goes. Qu'est-ce qui vous dérange en lien avec le nanisme? Nathalie?
Ben, ce qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de nanisme, les gens pensent toujours « Ah, vous êtes juste petit ». C'est pas grave, vous êtes juste petit. Mais il y a trois aspects qui sont très importants à prendre en considération. Depuis tantôt, avec Jean-François, on parle du côté médical. Donc, les maladies qui causent le nanisme peuvent apporter beaucoup de complications sévères, que ce soit, comme Jean-François, au niveau de compression moelle épinière, hydrocéphalie, hypotonie, arthrose, opérations diverses. Il y a aussi l'aspect architectural environnemental qui est très important, donc tout ce qui est adaptation. Donc, qu'on pense à la maison ou à l'extérieur, il n'y a rien d'adapté pour nous. Ouais. Et il y a aussi le côté social qui est les préjugés, la discrimination. Donc, ça, c'est un autre gros aspect. Mmh. Donc, tout dépendant de chacun, Ginette, Jean-François auraient des réponses différentes. Mais...
Malgré que vous avez passé à gratte assez large.
Oui, oui, mais je veux dire...
le
moi...
social, le médical, puis l'architecture.
Ce que je veux dire, c'est que chacun peut avoir un de ses aspects qui l'affecte plus. Moi, ce qui... peut-être que... parce que je me fais souvent poser la question. Moi, c'est souvent les préjugés qui me dérangent le plus. Ouais. Les regards, les rires, les moqueries, les commentaires désobligeants qu'on peut recevoir.
Mais en même temps, ça provient souvent d'ignorance.
Oui, oui.
Ouais. C'est vrai que c'est achalant, mais quand on le réalise, disons quand c'est moins émotif et plus rationnel, on se dit « OK, c'est juste qu'il ou elle ne comprend pas
ouais. ».
Monsieur le Président, vous, qu'est-ce qui vous achale? Qu'est-ce qui vous dérange?
Ah, ben là, moi, ben là, les mêmes raisons m'achalaient, mais tout au fil de ma vie, on finit par ne plus voir ça. Ça dépend des jours, de quelle façon on s'est levé le matin. Mais moi, présentement, ce qui peut achaler, ce qui a pu m'achaler toute ma vie, on dirait qu'à cause du fauteuil, je passe incognito. Oui. Alors, je ne suis plus debout, je suis assis.
Oui.
Alors, on va voir le fauteuil, on ne verra pas la longueur de mes jambes qui sont les mêmes. Mais en étant assis, c'est moins évident. Et on dirait que les gens... On dirait que la curiosité et les railleries font place à la sympathie.
Ben, j'ai entendu ça de personnes de petite taille debout, à savoir que d'autres qui sont en fauteuil ne se revendiquent peut-être pas suffisamment comme étant une personne de petite taille parce que le regard est peut-être plus favorable à une personne de petite taille en fauteuil roulant que...
Ah non, ben là, je le revendique tout autant parce que là, j'ai jamais ressenti la chondroplasie comme je la ressens présentement parce que avec la longueur de bras que j'ai, malgré la paralysie, j'ai encore bien moins d'accès. Tout est de plus en plus... Tout est multiplié par 10 des complications parce que je suis à chondro, je suis de petite taille. Les transferts de la chaise roulante à un sofa, à un lit, aucune possibilité de transfert par moi-même. Mmh. Alors, je suis d'autant plus hypothéqué à cause de mon anisme.
Kamal, juste une petite note. Je ne suis pas certain qu'il y a une chaise à ma gauche, étant donné qu'Éric n'en avait pas besoin. Donc
il y en a une.
OK, parfait. Parce que je me disais, si Diane arrive, ce serait le fun qu'on soit accueillant. Ginette?
Oui. Moi, vraiment, côté médical, je peux dire que, en fait, c'était très long avant qu'on trouve vraiment ce que j'avais. En fait, les médecins opéraient plus l'os pour essayer de redresser, ce qui était une faiblesse vu le manque de phosphore qui était éliminé par les reins. Donc, ça fait que j'ai quand même une croissance qui est, je dirais, admettons, c'est juste limite, là. Je me souviens, la première fois, j'avais été à l'association, quelqu'un m'avait dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es bien grande, toi! » Puis j'avais dit, « Bon, je suis comme entre deux mondes, mm-hmm. tu sais, je suis comme entre les grands, puis quand je vais dans, avec les personnes de petite taille, ben là, oups! » Mais en fait, puis deuxièmement, ce qui me dérange, en fait, c'est ça, je veux dire, du côté médical, maintenant, ils ont fait des avancées énormes. D'ailleurs, quand on a décidé d'avoir mon chum, premièrement, était de taille normale, 5 pieds 11, fait que, et on a décidé d'avoir un enfant. Puis le médecin m'avait dit, inquiète-toi pas, s'il y a quelque chose, l'enfant n'aura pas les conséquences. Alors ça, ça m'a... Puis effectivement, elle avait le même gène. Puis... mais avec le phosphore qu'on donne maintenant régulièrement, donc, comme j'ai dit, Sarah, elle n'a aucun problème. Et maintenant, c'est une maladie qui est régressive. Donc, à 18 ans, on arrête la médication complète. C'est comme si le phosphore revient à un taux limite, mais normal. Comme. Et ça, c'est l'aspect médical, disons.
Après, c'est particulier, ben, c'est rare. Est-ce qu'il y en a plusieurs maladies régressives?
Moi, je pourrais pas vraiment, je mm-hmm. j'ai pas, mais disons que la mienne, c'est comme ça.
Ouais, ouais.
Et en fait, ce qu'on m'a dit aussi, mon généticien, parce que c'est un généticien qui a suivi Sarah, et il m'a dit que j'étais blindée pour l'ostéoporose, donc je ferais pas jamais d'ostéoporose.
Okay. C'est toujours bien ça de pris.
Oui, ben c'est ça. Il y a chaque côté, ouais, c'est ouais. ça que je me disais.
Je reviens à ce que vous disiez au départ, Ginette Lapointe. Est-ce que ça a pris combien de temps avant que vous vous sentiez chez vous à l'Association québécoise des personnes de petite taille, puisque vous étiez comme entre deux mondes un peu partout?
C'est ça, exactement. Après, je me suis toujours sentie quand même bien. C'est sûr que comme Nathalie ou d'autres, j'ai appris à les apprécier puis ils m'ont aimé finalement. C'est sûr que je suis différente d'eux. Mmh. Comme toutes les personnes, il y a différentes maladies. Chaque maladie a une caractéristique différente. C'est ce qui fait le monde. Hein. De toute façon, dans le monde, on est tous différents.
Bien sûr. Ouais.
C'est ça. Maintenant, je sais plus. Ah oui. Est-ce que je peux juste aussi ajouter que qu'est-ce qui me dérangeait, c'était le regard, ça c'est sûr. Le regard sur soi, sur les autres, les jugements. Et en fait aussi, c'est bizarre parce que ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça me dérange presque plus. Puis c'est quand je suis seule, admettons, je vais au Costco, je vais un peu partout. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. Je vais en voyage, je vais n'importe où. Et... c'est sûr que quand je suis seule, je sens moins, ça me dérange pas du tout. Les gens me regardent et pouf. Mais c'est quand je suis avec quelqu'un. On dirait que le fait que l'autre personne peut être dérangée par les regards, ça m'agace, honnêtement. Et en fait, ma fille me partageait, parce que j'ai demandé à ma fille avant de venir à l'émission, j'ai dit, est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange que maman était petite, tout ça? Et elle m'a dit... Quand j'étais jeune, honnêtement, maman, quand on se promenait... Parce qu'elle ne m'en a jamais parlé. Hein, c'est moi qui ai posé la question dernièrement. Ouais. Et elle m'a dit...
Si elle voulait avoir son allocation à chaque semaine.
Elle m'a dit... en fait, ça me dérangeait. Puis quand les gens te regardaient, souvent, j'étais portée à les regarder, les dévisager,
ben oui.
jusqu'à temps qu'ils arrêtent.
Et, pour vous défendre, une façon de...
Oui, ouais. de prendre pour moi, ouais, finalement.
Dans ma famille, c'était comme ça aussi.
Oui,
ben, c'est comme ça pour tout le monde.
J'imagine.
Ouais. Aussitôt que tu as une différence.
Ouais. Nathalie, qu'est-ce que l'on vous dit, vous qui en côtoyez beaucoup, c'est un peu votre rôle, qu'est-ce qui dérange en général? Des choses qu'on a déjà nommées ou il y a autre chose?
C'est pas mal ce qu'on
autour
a nommé.
Ça.
Oui,
ouais.
autour de ça. C'est sûr que les commentaires sont différents, tout dépendant de la personne. tout dépendant combien qu'on est. C'est sûr qu'on se promène sur la rue, plusieurs personnes de petite taille ensemble, ça va être différent. Mmh. Ou si c'est un enfant de petite taille avec les parents, des fois, les commentaires peuvent être différents par rapport aux adultes. Mais on apprend à vivre avec.
Est-ce que les ados réagissent particulièrement à l'heure où on veut cruiser, où on veut être remarqué?
C'est sûr que l'adolescence est une période difficile pour les personnes qui ont des limitations, qui ont des différences. Et entre autres, les personnes de petite taille. Et je vous dirais même que ça peut être différent, tout dépendant qu'on est une fille ou un garçon. Les garçons de petite taille ont vécu cette période-là peut-être plus difficilement que les filles. Je dis pas que c'est facile pour les filles non plus, là, mais c'est différent, tout dépendant si on est dans une grande ville, une petite ville, c'est, si on a un gros groupe social. Puisqu'en général, on est bien entouré. On a beaucoup d'amis, on a nos activités, nos gangs. Tout dépendant des intérêts de chacun. Là.
Jean-François, vous êtes notre gars. Vous vous souvenez à l'adolescence comment vous receviez la société, le regard?
Très bien, je suis quand même pas si vieux que ça. Et c'est quand même assez près. Non, l'important, c'est de se trouver une passion, un loisir et de se concentrer et de se valoriser par l'activité qu'on fait. Bon, à l'école, j'avais la chance de bien réussir. Et j'avais commencé à faire partie de la fanfare, je jouais de la trompette. Et ça a donné que j'ai bien aimé ça, puis j'étais pas mauvais du tout. Alors, j'étais le lead trompette de la gang, fait que j'avais des solos, j'avais des responsabilités auprès de la section, de sorte que je me valorisais énormément par ma musique et par mes études. Et ça a été comme ça tout le long de ma vie. Finalement, je m'étais développé une bonne carapace par l'assurance qu'on peut développer à travers nos réussites.
Comment?
Alors, c'est pour ça que en tant que président, je favorise et mon message est très simple. Alors, à nos jeunes, je leur dis de pousser leurs études au maximum afin qu'ils développent une confiance, une assurance et avoir plus de facilité dans la vie en occupant un poste où les études vont remplacer les efforts physiques.
Intéressant. J'ai souvent des discussions comme celle d'aujourd'hui et on n'a pas nécessairement entendu le mot carapace souvent. Donc, je saute là-dessus. Comment se développer une carapace sans être froid, sans être trop fermé?
Je pense que ça vient beaucoup de l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Moi, toute ma vie, depuis que je vais faire un jeu de mots, toute petite, très jeune, j'ai toujours entendu de mes parents, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Donc moi, c'est vraiment la confiance en soi que nos parents peuvent nous bâtir. Personnellement, c'est comme ça. Puis c'est ce que j'encourage toujours les familles quand ils viennent à l'association, quand leur bébé est très jeune et ils sont un peu désemparés par la nouvelle et par comment être avec leur enfant. Puis c'est toujours justement de la confiance en votre enfant et comment vous allez bâtir cette confiance-là.
Bon, moi, si je peux ajouter, moi, en fait, quand j'étais jeune, mes parents m'ont... Il n'y avait pas beaucoup de dialogue, en fait. Je pense qu'il était un peu... il ne savait pas comment... Il y avait beaucoup d'amour dans le non-dit et beaucoup d'acceptation. Et en même temps, ma mère, pour une fille à l'époque, elle m'a quand même envoyée à l'université. J'ai fait un bac en sciences commerciales. Puis ce qui est beau, ce qui m'a permis de travailler, ce qui m'a permis de bien gagner ma vie, tout ça, d'être indépendante. Et en fait, c'est merveilleux, là. Mais je peux dire que ça n'a pas fait que j'ai accepté plus. En fait, j'ai commencé vraiment à cheminer. C'est spécial au moment où je me suis séparée. Pardon?
OK. Non, oui. J'étais intriguée.
Oui, parce que, en fait, je cherchais un sens à ça. J'avais vécu beaucoup pour l'autre, pour ma fille, pour tout ce monde-là. Puis j'avais toujours... été dans le non-dit, même à l'université, souvent, je m'étais faite une carapace, c'est-à-dire que je réagissais jamais. Je me souviens d'un prof qui avait dit des conneries, là, puis j'avais rien, j'avais aucune réaction émotive. Je contrôlais bien ça. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai appris quand même, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je travaillais beaucoup intérieurement, vraiment à être bien avec ma maladie, avec mon handicap, avec la façon que je suis, à être ce que je suis, c'est magnifique.
Est-ce que parfois c'est exaspérant d'être obligé de travailler sur soi alors qu'il me semble que c'est la société qui devrait rendre l'accès plus pratique?
Non, pas vraiment. Je trouve pas que c'est... Moi, je pense que tout le monde dans la société doit faire des efforts. C'est pas parce que tu as un handicap physique que les autres qui n'ont pas d'handicap physique, ils n'ont pas un émotionnel, ils n'ont pas un intellectuel. Tout le monde a quelque chose qui est différent, qui a à travailler pour être bien, pour être en paix, pour être calme, pour être, je dirais, performant sans être, comment dire, être bien.
Ouais. Est-ce que c'est différent pour un gars, la formation de la carapace? Est-ce que, Jean-François, parce que vous avez l'air d'un leader né, est-ce que, justement, vous devez vous méfier de ne pas être trop imperméable?
Non, je suis quand même pas trop imperméable. J'ai quand même un cœur à la bonne place, j'imagine. Et puis, sauf que, bon... Comme je vous ai dit, le regard des autres maintenant m'est rendu quasiment inexistant. Ce que j'avais commencé à apprécier dans mes dernières années de déambulisme, là, que je marchais, j'avais confiance d'interpeller les enfants, souvent qui étaient victimes de réactions excessives de leurs parents. Les parents vont souvent développer un petit peu d'impatience et vont chicaner les enfants, alors que cette observation du comportement m'avait obligé à intervenir souvent en disant « Toi, t'as la face d'un petit gars qui a plein de questions à me poser. Qu'est-ce que t'aimerais savoir? » Fait que là, la réaction du parent est désamorcée et où j'arrivais avec « Toi, tu vas faire un scientifique plus tard. Tu t'interroges sur des choses que tu vois, tu te poses des questions. Ouais. Alors, vas-y. »
Et en même temps, c'est très bon parce que ça sensibilise le parent.
Oui, ben c'est ça. Moi, j'agis beaucoup comme Jean-François dit. Oui. Moi-même, j'entends tellement souvent les commentaires des enfants qui passent à côté de moi. Puis souvent, c'est pas à moi qui s'interroge, mais ils disent « Maman, pourquoi la madame est petite? » Ou « Ah, maman, regarde la petite madame. » Puis le parent, tu vois là, dans son regard, il est mal à l'aise, il fige, il veut pas te faire mal. Donc moi, si l'enfant est prêt, comme Jean-François, je vais au-devant, puis je réponds aux questions de l'enfant. Puis des fois, c'est pas besoin d'être compliqué comme réponse. Et l'enfant est content, le parent est content, t'as sensibilisé, t'as informé. Oui. Et juste pour revenir vite à l'histoire de la carapace, moi puis plusieurs personnes de petite taille, je suis sûre qu'ils sont d'accord, on a, comme on dit, des bonnes puis des moins bonnes journées.
Bien sûr.
Il y a comme des journées que moi, je dis, au lieu de dire carapace, je dis que j'ai comme des œillères, comme un cheval. Mm-hmm. Donc, je me promène sur la rue, puis je vois rien, j'entends rien, je fais ma vie, je suis bien dans ma peau, puis je fais mes activités. Puis il y a d'autres jours qu'on file pas ce matin-là, puis la température est maussade, puis là, on dirait qu'on les voit toutes, qu'on les entend tout. Puis, ou des fois, comme tu disais par rapport à Ginette, à ta fille qui voyait les commentaires et qui attendait. Moi, c'est souvent le cas aussi quand je me promène. C'est mes amis, ma famille qui disent « T'as-tu vu? T'as-tu entendu? » Puis je leur dis tout le temps « Non, j'ai rien vu. J'ai rien entendu. Laisse faire. » Puis ça les blesse.
Depuis quand vous ne les voyez plus, Nathalie?
Bien, comme je dis, ça dépend des jours.
Non, je comprends, mais bon, Ginette, c'est son divorce ou sa séparation?
Moi, je dirais beaucoup depuis que je connais l'association, depuis que je suis impliquée dans l'association.
87, 86.
J'avais 20 ans. Ouais. Fait que, donc, c'est beaucoup à cette époque-là. Je pensais avoir vécu une bonne adolescence, une bonne vie, mais je me suis rendu compte avec l'association de côtoyer, de passer par-dessus l'effet miroir qu'on appelle, là, c'est de regarder les autres personnes de petite taille et de voir ce que les autres voient quand ils nous regardent, puis de passer par-dessus ça et là de voir que je suis pas toute seule au monde, je suis bien, j'ai eu une belle vie. Puis c'est ça, il faut finir, bon, je sais qu'il reste peu de temps, et les personnes de petite taille ont des belles vies, ont un travail, ils vont à l'école, ils font une vie, c'est des
le
personnes...
Le pourcentage des gens qui travaillent?
Je pourrais pas vous
quelqu'un
dire
sait?
Le pourcentage.
Ben, moi, je.
Jean-François, tu le sais-tu? Mais c'est la majorité.
La majorité.
C'est la majorité.
Ginette, vous vouliez dire quelque chose rapidement?
Oui, en fait, c'est ça, je voulais dire, comme Nathalie a l'a mentionné. Là, c'est comme. Je suis comme
pénible. Ah, je m'excuse.
Non, c'est pas grave. Il y avait comme quelque chose qui me venait, là, puis je pense que je l'ai échappé. Okay. Ça ne doit pas être important.
Jean-François, vous allez être président combien de temps?
J'ai été président, ben là, je suis encore président, encore pour la fin de mon terme. Là, ça doit faire 4 à 6 ans, là, je compte pas les années. Mm-hmm. Mais juste pour terminer sur une note positive, et les gens de petite taille ont des vies heureuses, des vies, et occupent des occupations, des métiers, des professions aussi standards que tout le monde. Et ce qu'on a déploré dans les derniers mois, les dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on présente un reportage, c'est souvent avec autre chose que des Canadiens, des Québécois. C'est toujours des gens qui font du cirque, du spectacle, du lancer du nain, et ainsi de suite. Alors que ça, c'est pas ça la réalité.
C'est ça. Ça change, ça change. Ça, c'est sûr. Ginette, je suis désolé, le temps est passé, mais je sais que vous avez retrouvé, mais vous partirez un blog.
Vous
pourrez l'afficher là-dessus. Ginette Lapointe, Nathalie Labelle,
merci beaucoup,
Jean-François Boulet, merci beaucoup à vous de me conscientiser et j'espère conscientiser d'autres. Bon, on a parlé beaucoup du regard, mais comme on disait, il y a l'aspect médical, l'aspect architectural et l'aspect émotionnel qui souvent sont... disons, prise à partie. C'était Kamal Salifou à la mise en onde, Lynn Gargano à la recherche. La semaine prochaine, on démarre le mois de novembre avec Gail Ouellet du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonne semaine tout le monde.